Hello mes chers amis, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et je vous emmène à nouveau cette semaine pour un épisode spécial qui est donc un retour d'expérience et non plus une leçon. Donc vous l'avez compris, c'est comme la semaine dernière, on va un peu inverser les rôles et cette fois-ci ce n'est pas vous qui me posez une question, c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui suis allée à la rencontre d'auditeurs et de clients aussi de mes formations Damian pour pouvoir leur poser des questions un peu sur le podcast mais surtout sur des sujets que j'ai pu abordé dans mes formations, et en l'occurrence aujourd'hui c'est le cas avec Olivier, où j'ai beaucoup parlé de management et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait il m'a donné vraiment son feedback à la fois sur la formation mais surtout en fait les enseignements qu'il a pu en tirer, qu'est-ce qu'il a pu mettre en place concrètement, et je trouve que son parcours est assez incroyable quand j'y pense, parce que vraiment il a été extrêmement méthodique finalement dans l'application de la formation, ce que je découvre, et je vois en fait les effets que ça a pu avoir sur son entreprise. Donc bref, j'ai pour ma part passé un très bon moment. J'espère que vous en passerez un bon aussi. J'espère de tout cœur que vous ne trouverez pas que cette démarche est trop commerciale, mais pour moi c'était important parce que vous êtes nombreux à me demander d'avoir plus de retours d'expérience et donc je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, franchement, ça me faisait plaisir parce que finalement j'ai pas si souvent le temps que ça et l'occasion surtout de parler en profondeur et d'avoir des feedbacks en profondeur sur mon travail et sur le travail de mon équipe sur les formations d'Emian. Donc pour moi c'était une super opportunité et je suis très très contente de l'avoir faite. Donc un gros merci Olivier d'avoir accepté cette invitation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Olivier.
Bonjour Pauline.
Ben, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode un peu particulier, en tout cas de mon point de vue, puisque comme tu sais, j'ai beaucoup l'habitude de faire des leçons, je ne me rappelle même plus à combien de leçons j'en suis, mais là c'est pas vraiment une leçon, c'est un peu différent puisqu'on va un peu renverser les rôles, au sens où c'est moi qui vais te poser plein de questions, puisque donc tu as commandé l'une de mes formations, la formation sur le management, et en fait j'avais très très envie d'avoir un retour d'expérience sur cette formation. Peut-être avant qu'on rentre dans ce sujet, Olivier, si t'acceptes, je veux bien que tu te présentes pour les personnes qui te connaissent pas, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, et puis qu'on parle un petit peu plus management justement.
Très bien, alors moi en fait je suis vétérinaire depuis plus de 35 ans, je soigne exclusivement des chevaux.
D'accord.
Et donc en fait c'est la passion des chevaux qui m'a amené au métier de vétérinaire. Tout petit, mon grand-père était généraliste et pendant longtemps j'ai rêvé d'être médecin, puis à un moment donné il m'a paru la possibilité de faire fusionner ces deux passions. Et donc, je me suis installé comme vétérinaire. C'était ma première expérience entrepreneuriale dans la région du Lyon d'Angers, où j'ai monté une clinique, j'ai créé une clinique. Et en même temps, comme j'ai un côté un petit peu perfectionniste, je me suis spécialisé en chirurgie. J'étais un des premiers vétérinaires français spécialisés en chirurgie équine. Et en fait, ça m'a donné une opportunité de devenir professeur de chirurgie à l'école vétérinaire de Nantes, où ils avaient besoin d'un talent pour développer la clinique équine qui était quasiment inexistante, ce qui posait des problèmes d'accréditation européenne. Donc, je suis arrivé à l'école vétérinaire de Nantes, et puis on a créé une équipe, développé une grosse clinique. Pendant 15 ans, j'ai travaillé là-bas comme professeur.
Okay.
Et on a mis en place tous les niveaux pour former des internes, des résidents, des futurs spécialistes, etc. C'est par partir de zéro comme ça, c'était une expérience passionnante. Et puis au bout d'une quinzaine d'années, il n'y avait pas vraiment de nouveaux projets et fondamentalement, l'administration n'est pas mon élément. Donc j'ai quitté la chaleur de mon poste de fonctionnaire. Et j'ai créé trois entreprises. Et la première, qui est une entreprise vétérinaire, parce qu'il fallait que je continue à pratiquer mon métier. Mais en même temps, j'aime beaucoup transmettre. Le fait de quitter l'enseignement, c'était pas anodin pour moi. Et puis aussi, on va dire que, de manière générale, j'aime les gens. J'aime les vétérinaires. Et j'avais à cœur d'apporter une offre de formation pour les vétérinaires équins, une offre de formation continue qui soit quelque chose qui impacte leur quotidien et en même temps qui apporte aussi quelque chose, parce que ce sont des métiers où il y a beaucoup de problèmes psychologiques, il y a beaucoup de burn-out, un métier où il y a malheureusement beaucoup de suicides, c'est un métier qui est très dur. Et donc je voulais aussi être vecteur de solutions par rapport à tout ça. Et donc j'ai créé Vet Masterclass Horse, qui est mon entreprise. Puis j'en ai créé une autre qui pour l'instant est en sommeil, que je vais peut-être réveiller dans les mois qui viennent, on verra, mais avec deux, je suis
déjà bien
occupé.
Donc je ne suis pas la seule personne hyperactive ici, ça fait plaisir.
Et voilà, exactement. Mais ça fait aussi partie des choses inspirantes, on va dire, dans les podcasts, les leçons, etc., cette culture-là.
Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier parce que c'est grâce à toi que j'avais eu vraiment le privilège de pouvoir interviewer Michel Robert, tu sais, sur le podcast, parce que c'est toi qui nous avais fait, si je me trompe pas, l'introduction. Et j'en garde vraiment un merveilleux souvenir. C'était très, très émouvant. Donc, comme quoi, tu vois, les auditeurs du podcast ne sont pas que des auditeurs, mais au contraire, là, t'en es la preuve vivante. Bien souvent, mes invités, en fait, les gens ne le savent pas, mais viennent de l'audience, en réalité, et de leur contact. Et ça, je trouve ça formidable, parce que je trouve que ça permet justement de boucler la boucle.
C'est ça. C'est rigolo, parce que moi, j'ai découvert le podcast par pur hasard, puisqu'en fait, tu as interviewé une homonyme d'une de mes cousines, qui s'appelle Delphine Plisson.
Ah, et, c'est drôle.
Et un jour, je vois, je me dis, incroyable, cette dame interview ma cousine.
Je la connais.
Et puis, j'écoute, mais pas du tout, c'est pas du tout ma cousine. Mais alors, j'étais emballé du podcast. Et j'appelle mon fils aîné.
Je connaissais pas cette anecdote, c'est incroyable.
J'appelle mon fils aîné qui avait vécu la même expérience, qui me dit incroyable, super podcast. Et puis j'ai eu mon fils cadet plus jeune qui me dit comment tu connaissais pas le gratin à l'époque, le gratin, c'est génial, etc. Et c'était le début, on va dire, d'une
aventure. Donc j'ai toute la famille aventure, qui m'écoute. Écoute,
d'une aventure d'auditeur du podcast.
Formidable. Olivier, du coup, avec toutes ces activités, j'imagine que tu as eu beaucoup d'interactions humaines, bien sûr, et notamment d'interactions RH. Et tu sais que je voulais en parler parce que l'une des raisons pour lesquelles je voulais avoir tes retours d'expérience, c'est notamment parce que tu es client de la formation que j'ai faite sur le management. Management, ce qu'on n'apprend pas dans les livres. Et donc, je serais déjà curieuse de comprendre pourquoi tu as senti à un moment donné que tu avais besoin de prendre une formation. Enfin, qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es senti dans cette position ?
Alors, je pense qu'il y a sûrement trois choses. La première, c'est que j'adore me former. Je trouve que c'est un exercice pour le cerveau qui est motivant, qui est passionnant. Et je pense que aussi longtemps que j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours, je me formerai, je suivrai des formations. Et depuis, on voit dans les neurosciences que quand on se forme, on crée des nouvelles connexions neuronales, on crée même des nouveaux neurones, etc. Et que finalement, quand on fait ce genre de choses, on se sent bien. Donc on va dire que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi-même, j'ai une entreprise de formation dans laquelle je ne veux pas apporter que de la technique vétérinaire. Donc, ça m'intéresse de regarder comment font les autres et j'essaie de trouver des gens inspirants et je trouve que les formations de Myan le sont vraiment. Et le troisième point, c'est que au milieu de tout ça, il y a eu une conjonction. Dans le développement de cette masterclass, on a décidé de changer de vitesse. Donc, on était une équipe de trois avec, on va dire, mon bras droit, Émilie Robert, qui... Moi, je suis un peu le porteur de la vision. Et puis, Émilie est mon bras droit et j'ai mon fils Édouard qui est responsable des plateformes.
D'accord.
Et puis de tout ce qui est contenu vidéo, etc. Et voilà, on a décidé de se upgrader et d'embaucher deux personnes. Et à ce moment-là, on s'est dit notre petit système D de management, il va pas tenir le choc. Et donc, on a décidé de suivre. Donc en fait, c'est une formation qui a été suivie en tandem par moi et Émilie, mon bras droit. Ça nous a permis aussi d'échanger, je trouve, que de faire cette formation à plusieurs.
C'est plus sympa. C'est vrai que ça. Tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant que tu le dises parce que c'est très fréquent que les personnes qui suivent les formations me disent qu'ils l'ont pas fait seuls. Et au final, c'est vrai que je le mets pas en avant, mais je trouve ça évident en fait que c'est plus intéressant. Je pense notamment à la formation sur la plateforme de marque ou quand t'es en association avec quelqu'un, la faire à plusieurs, c'est intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'idées, c'est beaucoup plus créatif. Et même sur le management, ça permet en fait d'emblée d'aligner finalement l'équipe sur en tout cas une méthode, quoi. Alors après, il y en a d'autres, mais celle-ci, elle fonctionne. Et du coup, c'est sûr que si tu pars sur la même méthode, les choses vont plus vite.
Mais surtout qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le management reste dans le monde du travail un gros problème. Mais alors nous, bah, vétérinaires, moi, je ne suis pas formé. Mon fils aîné est commercial. Il a fait quand même pas mal de boîtes, dont une qui avait été rachetée par Capgemini. Enfin, je pense qu'il a été confronté à pas mal de situations. Alors, dans la plupart des cas, pour lui, commercial, son management, c'est un gros problème. Le manager est souvent un commercial qui a été upgradé. Et finalement, c'est compliqué. Dans le milieu médical et vétérinaire, ben, c'est des gens qui sont des techniques comme moi, hein, pas formés au management, mais qui sont des gens en plus qui ont énormément de mal à donner de la légitimité. Alors, c'est un espèce de combat permanent, le management dans les hôpitaux, qu'ils soient vétérinaires ou humains. On finit par mettre un pur administratif, mais les soignants le considèrent comme un corps étranger. Et donc, et manager, si on n'est pas légitime, c'est pas facile. Voire impossible, peut-être. Donc, j'ai l'impression. Donc, nous, on avait vraiment à cœur de pas rater cette marche-là. Et puis, on veut quand même scaler cette entreprise. Et que donc, si on rate la première marche après, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'on avait conscience. Hein, c'était une des premières vidéos de la formation. Pourquoi c'est compliqué? Je pense que nous, on avait bien conscience. Et c'est pour ça qu'on a décidé de suivre cette formation.
Mais tu sais, d'ailleurs, quelque chose que j'ai jamais, je crois que je l'ai jamais dit en réalité, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que le management, c'est un problème parce que c'est dur, mais c'est aussi un problème parce que les gens ne sont pas formés et que souvent on devient manager parce qu'en fait on était bon dans son travail et que du coup on prend des responsabilités et du coup souvent on devient manager comme ça. Mais il y a, à part ton manager à toi qui est censé te former, c'est d'ailleurs bien souvent comme ça que ça se fait et parfois ça se passe très bien quand t'as un bon manager toi-même, mais si le fait est que t'es un peu laissé à l'abandon ou que ton manager à toi-même n'est pas bon, en fait il y a personne pour te former. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que chez Gemio, par exemple, notamment les nouvelles personnes qu'on embauchait pour être manager, par exemple, ou qui montaient en responsabilité, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un besoin fort de formation en interne. Et d'ailleurs, cette offre, elle a été offerte à Gemio pour tout dire. Mais on a donc commencé à faire des formations en interne sur le management parce qu'on s'est rendu compte que c'était un besoin criant des équipes qui nous le demandaient et qu'en fait, ils savaient pas forcément faire. Et comme c'est en plus très compliqué, comme je le dis bien dans la formation, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est un vrai sujet aujourd'hui professionnel, qui est que c'est un peu le Graal pour tout le monde de devenir manager, mais en même temps, personne n'est vraiment formé pour ça, quoi.
Non, c'est sûr.
Et alors, dis-moi, Olivier, donc, quand vous avez commencé à prendre la formation, donc il y a beaucoup de choses, en plus elle est assez dense, celle-ci, je serais curieuse de savoir quels ont été peut-être les points d'étonnement, les surprises ou peut-être les grands enseignements, les premières choses qui te viennent à l'esprit comme étant des points marquants en fait que tu aurais apprises.
Alors, on a eu une grosse conversation au départ sur le test du disque. Et c'est vrai que j'avais l'impression que sûrement encore dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ça serait un peu tabou de faire un test psychologique à un salarié ou c'est peut-être une idée toute faite. Ce qui est sûr, c'est que nous, pour le coup, on s'est pas forcément senti de le faire.
D'accord.
de rentrer dans ce dialogue-là. Alors, comme on a une coach qui est Marie-Blanche Pennington, qui a une société qui s'appelle Coaxial, qui en fait accompagne nos élèves et participe à certaines formations, etc. Donc on a décidé qu'on allait aller sur ce versant-là du disque et de voir ce que ça entraînait, etc. dans l'équipe et tout, avec elle, pour être un peu accompagné et on s'est senti un peu manager débutant de la méthode. Et donc on n'a pas franchi ce cap-là.
Ah d'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, mais bon, par ailleurs, le dit comme je le dis un peu dans la formation, mais tout ceci, ce sont des outils, c'est aussi à la carte, c'est-à-dire que t'es pas obligé de tout faire. Je trouve personnellement que c'est un outil assez intéressant, le disque, mais c'est vrai qu'il faut être à l'aise, parce que, bon, bah, comme je le dis, hein, dans la formation, il permet déjà de mieux se connaître et de connaître ses biais, c'est surtout ça qui est intéressant, et puis de connaître les biais des autres, et donc d'essayer d'aligner les langages, parce que c'est essentiellement un outil, finalement, psychologique de communication, où en fait, on va réussir à adapter un peu plus son discours en fonction de la manière dont l'autre personne perçoit les choses. Et donc en ça, je trouve qu'il est intéressant parce que le management finalement c'est un peu que ça. Hein. C'est comment tu délivres un message pour que la personne en face comprenne la tâche à faire ou la mission à faire le mieux possible et la fasse le plus efficacement possible.
Bien sûr.
Et donc.
Je pense qu'il y a toujours cette question pour moi en filigrane du management qui est la légitimité et la confiance. Et donc, senti légitime pour aller ensuite se dire, du coup, ça va interagir comme ci ou comme ça. Peut-être qu'avec l'expérience, on le fera. Mais c'est pour ça qu'on a préféré avoir quelqu'un totalement légitime sur le registre qui puisse nous aider.
Et
après, moi, j'ai très facilement tendance à aller chercher des ressources à l'extérieur et que, par exemple, on était au moment d'embaucher un vétérinaire responsable des contenus et une personne chargée de communication, mais pour nous porter un peu plus loin sur les réseaux. Et là aussi, nous, on travaille pour aider les vétérinaires. On est un prestataire qui est Karine Deville, qui est une boîte qui s'appelle FlexiRH, qui accompagne en RH des toutes petites structures et notamment pas mal de vétérinaires. Donc, c'est elle a accompagné le recrutement et du coup on a pu recruter, on a rédigé avec elle les fiches de mission, etc. Donc on s'est mis dans des conditions très confortables. Ça nous a permis de trouver nos deux pépites qui sont Cassandre et Sandy qui nous ont changé la vie. Et on était du coup, si je reprends un peu le suivi de la formation, on était au top pour démarrer un onboarding formidable, ce qui a été le cas. Et après, nous, par rapport à la formation, on est resté très scolaire. Donc, on s'est pas dit, ouais, ça, oui, ça, non. À part que il y a des choses sur lesquelles on va aller chercher de la presta extérieure. Mais donc, on est resté très scolaire. Voilà. Onboarding, feuille de route, one to one. Et donc,
Trouves que ça fonctionne, enfin, le fait d'avoir ce cadre, ce qui est souvent d'ailleurs ce qui manque en management parce qu'on se lance un peu là-dedans sans aucun cadre. Là, le fait d'avoir des repères et des outils, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'apporter avec la formation. Une fois de plus, on peut les faire dans un autre ordre, etc. Mais au final, c'était vraiment ce que j'avais à cœur de montrer, c'est que si on crée des outils qui sont simples, qui sont fiables, finalement, même un sujet très compliqué comme le management, je dis pas qu'il devient simple, c'est pas le propos, mais au moins, on peut se sentir rassuré et savoir qu'on va à peu près dans la bonne direction. Donc déjà, à un niveau un peu psychologique, première question, est-ce que tu sens que ça vous a aidé? Et puis deuxièmement, après, concrètement, est-ce que tu penses quand même que ces outils vous sont toujours utiles au quotidien?
Oui, c'est clair. C'est clair que oui. Moi, j'aime bien le principe, ce que j'appelle le principe de réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un endroit où il y a un mur, on rencontre le mur, on sait qu'il est là et on s'organise. Et si ce n'est pas le cas, on évite ces murs et on finit par penser qu'ils n'existent pas. Donc, je trouve que le fait de suivre le cadre, ça permet aussi de rencontrer ses propres défauts et de rentrer dans un système dans lequel on va progresser. Donc, le one-to-one, où nous, on a fait ça. Alors, en fait, moi, je fais le one-to-one avec Émilie, mon bras droit, et elle fait le one-to-one avec nos trois autres collaborateurs. C'est hebdomadaire, c'est calé, on a suivi à la ligne et ça permet déjà de découvrir l'outil, d'en prendre soi-même le feedback de l'outil, c'est ce que j'appelle moi le principe de réalité et ça permet deux choses. Un, c'est de démarrer la relation qui est attendue du one-to-one, mais ça permet aussi de devenir un manager. Par exemple, nous, on a réalisé, et on a quand même une petite idée, hein, où on est sur le disque. Alors, je pense qu'on a réalisé que pour nous donner du feedback, c'était difficile. On avait tendance un peu à vouloir arrondir les angles, etc. Et ce qui est drôle, c'est de réécouter, après quelques mois, de réécouter les vidéos et de se dire, ah, elle l'avait dit.
En fait, elle l'avait dit.
Parce qu'il y a des choses qu'on n'entend pas la première fois, etc. Bah ouais. Et puis quand on est les mains dans le cambouis, on se rend compte que voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a fait un petit exercice avec Émilie. On s'est mis en position de se donner du feedback un peu virtuellement, mais c'est vachement intéressant d'observer les mots employés par l'autre, etc. C'est vraiment un sujet de réflexion. Et je trouve que c'est ce qui fait partie de ce qui est entreprenant, de ce qui est intéressant, on va dire.
Complètement.
Et c'est vrai que Voilà. Nous, on a essayé de se mettre dans le vertueux. Donc, on a délégué notre recrutement. On va sûrement déléguer le disque. On a fait une formation pile à ce moment-là. Et clairement, je pense qu'on, eh bien, on est dans le vertueux. C'est-à-dire que du coup, la relation qui s'installe dans l'entreprise, eh bien, elle est bonne.
Elle est saine, ouais. Ça se sent. Mmh. Et souvent, ça passe, enfin, à la fois, c'est beaucoup de choses et c'est pas grand chose. Et les gens se font à la fois une montagne, je trouve, du management. Et en même temps, tu vois, les outils, c'est savoir faire du feedback, c'est savoir faire des rendez-vous hebdomadaires qui ont de la valeur ajoutée, qui servent à quelque chose, c'est savoir faire une fiche de poste. C'est que des choses qu'on sait, mais qu'au final, comme on n'a jamais réellement appris, notamment par l'expérience, parce que quand on démarre en management, ben on ne sait pas quelles sont les erreurs qu'on peut commettre, et bien du coup on passe un peu au travers. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais quand j'ai réécouté les formations, et ça c'est vrai que c'est un truc auquel je tiens beaucoup, c'est qu'elles soient réécoutables à vie, parce que je suis persuadée que la première fois que t'écoutes, tu filtres sur certains éléments qui te sont importants à ce moment-là. Mais au final, je dirais pas qu'elles sont parfaites, mais il y a quand même pas mal de fond dedans, parce que j'ai quand même maintenant, je les ai beaucoup travaillées avec mon équipe, et puis on a pas mal d'expérience, qui font qu'en fait, quand tu les reprends, il y a plein de petits détails qui t'étaient un peu passés, en tout cas les gens souvent me disent ça, des détails qui t'étaient passés un peu au-dessus, tu vois, parce que c'était pas ton sujet à ce moment-là. Quand tu le relis, bah tu dis « Ah, mais en fait, ça, c'est vraiment intéressant, et je vais en tirer un enseignement ».
Mais c'est peut-être même plus important que ça. On parlait de Michel Robert tout à l'heure et il avait écrit un livre il y a une vingtaine d'années. J'avais lu son livre puis je l'ai repris. Je dis super et tout. Puis il m'a dit oui d'accord, mais qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Parce que c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes pour toi. Tout ce qui t'a plu, c'est ce que tu sais déjà. Et je pense que c'est quand on démarre, on a tendance comme ça à se faire le petit plaisir de dire oh ça je le fais un peu spontanément etc. et puis finalement on évite un peu des parties qui vont gratter et le fait de revenir c'est là où on s'est confronté à la réalité donc on sait que ça gratte et puis on va voir comment ça se passe pour aller aux endroits où ça gratte. C'est ça qui est vraiment intéressant et c'est moi j'ai trouvé ça amusant de revenir notamment sur la vidéo de feedback parce qu'on a identifié que c'est pas forcément notre point le plus fort que tout était dit qu'on aurait tout était dit dès la première fois quoi. L'autre point sur le feedback, je pense que c'est la façon dont il est expliqué. Pour moi, c'est un outil qui va complètement au-delà du management et du one to one parce que dedans le feedback pose des questions et des bases éthiques de relations humaines et tu insistes beaucoup sur le fait de dire on parle des faits, on joue pas, etc. mais moi je pense que c'est une philosophie de vie qui est essentielle et quand j'étais gamin comme beaucoup de gens j'ai une éducation chrétienne et j'étais très dérangé par ce commandement, les 10 commandements qui disaient tu ne jugeras point. Et moi, je me disais, mais comment ça peut fonctionner? Enfin, si on ne juge pas, ça va être, c'est l'anarchie ou c'est la guerre, c'est ce qu'on veut. Et en fait, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, tu juges pas, ça veut dire tu juges pas l'homme. C'est dans la religion, c'est qu'il y a que Dieu qui est capable de juger l'homme. Mais en fait, ça t'empêche pas de juger un geste, de prendre position par rapport à un comportement, un geste, quelque chose. Alors même la société peut punir. Mais finalement, on juge pas la personne au travers de ça. Et dans la vie, dans l'amitié, dans l'entreprise, dans la famille, ça fait une très grosse différence. Et j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui a tendance à s'affranchir de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ramène vraiment les gens à leur comportement. Si t'es, si t'es vegan, quelqu'un qui mange de la viande, c'est un con. Il y a un jugement. Ouais, ouais. Je veux pas stigmatiser les vegans, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a un côté, tu te comportes comme ça, donc tu es comme ça, donc tu es.
On prend des raccourcis, quoi. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Et le problème, c'est qu'humainement, c'est catastrophique. Et donc, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que dans le management, c'est à proscrire. Et moi, j'ai été la première personne à faire ces erreurs, de ne pas me rendre compte que dans ma formulation, quand je faisais un feedback, je faisais un feedback qui était personnel et qui n'était pas sur un comportement. Et ça, c'est dramatique, parce qu'évidemment, ensuite, faut pas s'étonner que la personne, elle le prenne personnellement. Si tu dis à la personne, t'es complètement idiot, alors ça, c'est assez dramatique, bien sûr, mais même, c'est complètement idiot, non, c'est pas, on peut pas dire quelque chose comme ça, ou on peut pas dire, tu fais aucun effort, tu viens jamais à l'heure, non. Je constate que ça fait 3 fois de suite que au rendez-vous, t'es arrivé avec 10 minutes de retard. Il faut que tu comprennes que c'est un manque de respect, les gens t'attendent, etc. Donc, c'est juste un changement de paradigme dans la manière de parler au monde, où en fait, on va arrêter de juger, comme tu dis, et juste mettre une couche de respect, parce qu'en fait, finalement, on n'est pas là pour gérer les intentions des gens et pour les juger. En fait, on est là pour essayer de faire en sorte que les choses avancent. Et en fait, finalement, je trouve qu'on se donne un rôle un peu tout puissant, effectivement, assez proche d'un dieu, quand on se permet de juger quelqu'un sur qui il est. Il faut pas s'étonner après que les gens fassent des burn-out et des comportements, tu vois, où ils prennent une fois de plus ces choses personnellement, parce qu'en fait, finalement, quand on nous dit ça toute la journée, bah on le prend pour soi au bout d'un moment. Alors que c'est pas ça, non. Il faut pas s'identifier à son travail. À un moment donné, il y a un comportement qui a été inapproprié ou inopportun. Il faut le changer. C'est juste un comportement et donc c'est pas grave.
Alors nous, après ce débriefing-là, on a fait le choix de rentrer dans donner le feedback en respectant un peu le process cadre de la communication non violente. Avec le fait, l'émotion provoquée, le besoin non satisfait et la question. Ouais. Pour avoir un petit guide comme ça.
Ouais, et c'est vrai. Guide.
Moi j'ai adoré évidemment l'interview de Thomas d'Ansembourg. Mais c'est vrai aussi que son livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, que j'ai lu il y a un peu plus de 20 ans, c'est un livre qui a changé ma vie. Et en termes de management, dedans, il signale le drame des mots toujours et jamais. Que quand, à partir du moment où on utilise ce mot dans une phrase, en fait, le cerveau de l'interlocuteur, si on dit toujours, tu n'as jamais fait ça, le cerveau, il se met immédiatement à ne plus écouter, mais à réfléchir à la fois où il l'a fait.
Oui, oui, en mode défensif, totalement. La puissance des mots, je trouve qu'elle est, on la néglige, et dans le management en particulier, d'autant plus que c'est des interactions répétées. Et donc, dire quelque chose une fois, déjà, quand on fait ses erreurs, ça peut avoir un impact. Mais quand en plus c'est fait de manière très régulière, alors là, forcément, ça peut avoir un impact vraiment négatif. Et donc, c'est pour ça que je pense que vous avez très bien fait de prendre les choses tout de suite pour tout dire. J'aurais bien aimé, moi, lire plus de bouquins sur le management ou de plus me confronter à la réalité. Enfin, de toute façon, c'est aussi via l'expérience que j'ai appris. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, je pense, parce qu'en fait, j'avais pas saisi l'importance des mots dans le management et j'étais trop... finalement spontané, c'est pas que je suis plus spontané maintenant, mais maintenant j'ai compris que en fait mes mots comptent, et je pense d'ailleurs doublement en tant que manager, parce que forcément dès que t'es manager, bah la personne te regarde comme étant un modèle d'une manière ou d'une autre, une figure d'autorité, et donc l'impact des mots, il est d'autant plus important.
C'est sûr.
Mais je trouve ça très intéressant et peut-être pour terminer sur ton retour d'expérience, Olivier, je voulais comprendre au niveau vous de votre modus operandi et de la manière dont vous aviez utilisé la formation. J'ai compris que vous l'aviez fait à plusieurs, mais ça a été quelque chose où vous êtes dit OK, on va se lancer là-dedans et tout faire d'un coup, on va prendre le temps. J'aimerais le comprendre parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ou même de managers qui se disent j'ai pas vraiment le temps de faire une formation sur le management. Alors du coup, ils ne vont pas se former justement par peur que ça soit trop fastidieux. Je fais bien évidemment attention à ce que les formations soient relativement courtes, mais malgré tout, c'est un investissement de temps parce que au-delà de la formation, il y a de la réflexion, souvent on les refait un certain nombre de fois. Et donc, je voulais savoir, dans ton cas, si ça avait été un problème et comment vous étiez organisé.
Alors, en fait, d'abord, peut-être qu'il faut d'abord faire la formation sur la productivité ou sur la gestion de son temps. C'était une blague, mais ce n'est pas faux. En même temps, le temps, c'est un vaste sujet. En fait, nous, on ne s'est pas organisé. On a... Alors, il faudrait que je regarde exactement, mais parce que la formation, elle est sortie au printemps l'année dernière, non ?
Oui, c'était de mémoire, je crois que c'était il y a un an, un peu plus d'un an, à peu
c'est
près
ça.
en janvier 2023.
Et donc nous, en fait, on s'est dit, voilà, chacun l'a fait à son rythme comme il veut, etc. Et on va échanger dans l'été, puisqu'on avait, nous, on avait notre processus, on a lancé, on va dire, en juillet, le processus de recrutement qui devait se terminer fin septembre. On a onboardé nos deux nouvelles au 1er décembre. Et donc, en fait, voilà, on faisait un point de temps en temps pour discuter, tiens, il y a ça, c'est intéressant, etc. Puis après, on est rentré. Donc, finalement, la formation, elle est, entre guillemets, montée en puissance sur...
D'accord. Oui, en fonction de vos besoins aussi.
Sur 5 mois, on va dire. Sur 5 mois. Après, je pense quand même que c'est bien si le premier contact, il est quand même fait de manière assez rapprochée pour que ça construise une pensée. Je pense que si on fait une vidéo par mois, va souvent falloir revenir en arrière, quoi. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est un des gros atouts des formations que tu proposes, c'est quand même que c'est les vidéos font rarement plus de 30 minutes.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est assez facile de trouver le temps de faire. C'est assez facile.
Bah, écoute, propres contraintes de temps, j'ai aussi, donc j'avais pas le temps honnêtement de faire des formations qui durent 18 heures, mais d'autre part, je me suis toujours dit, quand on est professionnel, manager ou entrepreneur, mais on n'a pas le temps de faire ces formations. Et c'est d'ailleurs un feedback qu'on me faisait sans cesse, c'est mais j'ai pas le temps. Donc pour moi, c'était essentiel de faire des formations qui soient les plus condensées possibles, mais avec, tu vois, quand même un maximum de valeur ajoutée sur le fond. Et donc, c'est cette espèce d'équilibre que j'essaie toujours de trouver.
Sachant que nous, on essaye quand même d'allouer une partie du temps de travail à la formation.
Bah, vous avez raison. Mais c'est rare, je pense.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde l'aspect réseaux sociaux, etc., on est sur plein de choses qui sont en mouvement. Et puis, je pense que c'est aussi un facteur de motivation. C'est une façon de lutter contre la routine.
Ouais, complètement.
Mais
ça, c'est vrai.
C'est vrai que, moi, pour le, donc, nous, on a une partie de notre enseignement qui est en ligne. J'avais suivi pour ça la formation de Martin Latulippe, qui est une formation d'une richesse incroyable, formidable. Mais alors, il faut presque se mettre étudiant pendant un an. Hein. Donc, ouais. Pour le coup, c'est compliqué quand on est les mains dans le cambouis, a fortiori si on a plusieurs entreprises. Et voilà. Après, c'est vrai que voilà. Donc, pour nous, cette formation, elle a été extrêmement vertueuse. Elle a permis de faire un recrutement formidable. J'ai pas réussi à la mettre en place sur la partie vétérinaire, qui est pas du tout dans cette culture managériale. Et ça reste pour moi une vraie question de voir comment est-ce que dans ces métiers, professions libérales, enfin, qui sont très, très éloignés, comment le faire? Parce qu'on peut travailler avec des associés qui sont pas alignés, on peut pas un jour se lever en disant, tac, voilà ce qui va se passer. Et en même temps, comment faire pour apporter des ressources sur le management, ça m'intéresse d'échanger sur ce sujet. Mais comment est-ce que on peut apporter, parce qu'aujourd'hui si je leur dis il y a un truc formidable, vous allez manager vos cliniques, voilà la formation de Polynéno, les gens vont lire le truc, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ces conneries,
oui, non, ça ne me concerne pas. Bah après,
et
c'est
donc,
sûr
c'est...
que tu sais, tu peux
comment
pas
amener
forcer
des ressources,
quelqu'un,
c'est pas facile.
Ouais. Mais c'est une bonne question et je vais essayer d'y réfléchir. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut être prêt finalement aussi à accepter ce changement d'état d'esprit, de vouloir changer de comportement, progresser. Et si t'es un peu dans pas un dogme, mais à te dire que finalement c'est pas des sujets importants et qu'il faut juste faire son travail bête et méchant. Et encore, je le dis, c'est dévalorisant de le dire comme ça, mais certaines personnes pensent que c'est pas utile. Et bon, peut-être que c'est le cas, mais c'est difficile dans ce cas, ouais, effectivement, de les former.
C'est vrai qu'en fait, je pense que des métiers qui sont très réactifs par nature, puisqu'on a des urgences, les appels au travail tombent tous les jours, donc ça rend l'organisation du temps complexe. Donc, je pense que la proactivité est compliquée à acquérir si on est tout le temps dans un temps réactif. Je pense que le deuxième point, c'est que la structure de ces entreprises qui a un côté très horizontal, si vous avez 6 associés, en fait, les responsabilités sont très difficiles à clarifier. Il n'y a pas un board, etc. Et le troisième point, c'est que culturellement, je pense que en tout cas, le métier de designer, c'est un métier qui traditionnellement était managé par compagnonnage, c'est-à-dire c'est des petites structures. Un vétérinaire, il avait un jeune et il le manageait au quotidien. Et puis aujourd'hui, la taille a grandi. Les gens qui rentrent, ils vont rester une année ou 6 mois. Et finalement, les outils intuitifs, si on peut dire, de management sont plus actifs. Et les outils modernes sont difficiles à mettre en place. Mais bon, c'est un autre débat. Hein. C'est un vrai sujet quand même.
Mais bon, tu vois, d'un autre côté, des sujets, des thèmes comme le feedback, par exemple, même entre associés, à mon avis, le cultiver d'une manière constructive et non violente, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être très utile.
Sûrement, oui, c'est vrai.
Bon, bah Olivier, en tout cas, je te remercie déjà pour ton temps, pour ton feedback. Je te remercie d'avoir aussi fait la formation, bien sûr. Ça me fait bien plaisir de savoir qu'elle a été utile. Si jamais on souhaite te retrouver et qu'il y a peut-être des personnes ou des vétérinaires, alors je pense qu'ils doivent vous connaître, mais où est-ce qu'on peut te retrouver toi, titre personnellement, et puis tes entreprises pour pouvoir te suivre un peu mieux.
Alors pour me retrouver. Il y a évidemment LinkedIn, il y a aussi notre site internet, et puis pour ce qui est de suivre les actualités de l'entreprise Let Masterclass, on est quand même très présent sur les réseaux, notamment Instagram. Okay. Voilà.
Grâce à ton fils. Eh ben écoute, génial. Je te remercie 1000 fois d'avoir pris le temps. Je mettrai tout ça en lien en tout cas.
Pour la formation, pour globalement tout ce que tu apportes pour le quotidien des petits entrepreneurs comme moi ou comme j'aime à dire, longtemps j'ai cru que j'étais entrepreneur, mais j'ai découvert que j'étais surtout entreprenant.
C'est pas mal.
J'ai toujours besoin de ressources, on va dire. Exactement. Un grand merci pour tout ça.
Merci à toi Olivier, et puis à bientôt. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à tous pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.